Xavier de Montépin, Les Mystères du Palais Royal, deuxième partie, Un fils d'adoption. Chapitre 1, Le fils du braconnier. Si nous avons su répandre un peu d'intérêt sur les premiers chapitres de ce livre, si en un mot il s'est trouvé des lecteurs bienveillants et faciles qui aient bien voulu nous accompagner jusqu'ici, ils ont dû, sans aucun doute, se demander plus d'une fois ce que c'était que Raoul de la Tremblay, personnage jusqu'à cette heure mystérieux et énigmatique. Nous avons vu Raoul disposant à son gré des trésors fabuleux d'une fortune plus que royale. Nous l'avons vu en correspondance avec le régent et porteur d'un sauf-conduit donné par ce prince et conçu en des termes qui semblaient attester la plus haute faveur. Nous l'avons vu tremblant pour cette faveur que pouvaient compromettre, croyait-il, les jongleries sacrilèges d'une jeune illuminée. Nous l'avons vu enfin contracter avec la pauvre Jeanne une union menteuse, après avoir parlé au marquis de Thianges d'un mariage réel précédemment accompli. Le moment est venu, ce nous semble, de sonder le passé de notre personnage principal et de donner à nos lecteurs l'explication de tous ces mystères. Nous renouerons ensuite les fils un instant brisés du récit que nous avons entrepris. 20 ans environ avant l'époque où se passent les faits qu'on vient de lire, il y avait en Picardie un vieux manoir, quasi féodal, qui se nommait La Tremblay. Ce château, situé à quelques lieues d'Amiens et à une petite distance du hameau du Quesnoy, justement célèbre pour avoir été le berceau du plus grand peintre du règne de Louis XIV, de l'immortel Le Sueur. Ce château, disons-nous, devait son nom à une forêt assez vaste, située dans ses dépendances et composée presque exclusivement de trembles. Une singulière fatalité semblait s'être appesantie sur le dernier maître de cet immense domaine, le marquis Réginald Hector de la Tremblay. Réginald, héritier d'une riche et puissante famille, avait vu la fortune lui sourire à son début dans la vie et dans le monde. Il avait épousé une belle jeune fille de laquelle il était amoureux. De beaux enfants lui étaient nés, deux fils et une fille, trinité charmante, sur qui s'était concentrée toute l'affection du marquis et de sa femme. Mais voici que soudain, au moment où l'aîné des enfants atteignait sa 18e année, une maladie étrange et sans remède était venu le coucher sous la froide pierre du tombeau. Ce fut une première et poignante douleur pour les pauvres parents. Cependant, leur fille et son frère restaient encore pour les consoler. Un an après la fin prématurée du fils aîné, la jeune fille mourut à son tour. Un an encore, et le dernier enfant s'éteignit. Ces coups successifs étaient trop violents pour le cœur tendre et désolé de la marquise. Elle suivit dans la tombe les trois anges qui l'y avaient précédé. Réginald demeura seul en ce monde. Son grand château, naguère encore si rempli de bruit, de mouvement, de joie, d'un paternel et légitime orgueil, d'une affection conjugale inaltérable et chaste, ne fut plus qu'une froide et vaste demeure, pleine de deuil, de tristesse et d'éternelles larmes. Le marquis se vêtit de noir et se jura de ne jamais quitter ses sombres vêtements. Il renonça pour toujours à la cour et au monde. Ses épaules se voûtèrent, ses cheveux blanchirent. Des rides profondes se creusèrent sur son front. Tout en lui changea, mais la plaie saignante de son cœur resta vivace et douloureuse. 20 années se passèrent ainsi. Réginald, isolé en quelque sorte dans ses douleurs sans cesse renaissantes, ne se permettait qu'une seule distraction, qu'un seul plaisir, celui de la chasse. Et encore, bien souvent, tandis que ses piqueurs et ses chiens passaient au fond des bois, jetant aux échos de la forêt les uns leurs aboiements stridents et rauques, les autres les notes vibrantes et métalliques de leurs trompes de chasse, lui, demeuré en arrière, silencieux et absorbé, s'arrêtait dans une clairière, et des larmes muettes tombait de ses yeux rougis, pendant que son cheval broutait les feuilles vertes. Réginald attendait et désirait la mort. Mais la mort, cette sombre et lugubre coquette, se sachant ainsi attendue et désirée, ne se hâtait point de venir. À quelques centaines de pas de la porte d'honneur du parc de la Tremblay, sur le bord d'un petit étang marécageux, se voyait une chaumière de la plus misérable apparence. Cette chaumière, construite avec des branchages, de la boue et des roseaux, n'était élevée que d'un rez-de-chaussée et percée d'une porte basse et de 3 ou 4 ouvertures irrégulières, sortes de lucarnes à petits carreaux de verre à peine transparents, enchâssées dans de minces feuilles de plomb. À voir cette humble demeure depuis le dehors, on aurait dit une masure abandonnée. De profondes lézardes crevassaient de toutes parts les murailles fragiles et qui semblaient prêtes à s'effondrer au moindre vent. Des plantes parasites avaient envahi la toiture de chaume, à moitié pourrie, et que recouvrait une croûte verdâtre, de mousse et de lichen. Derrière la maisonnette, et entourée par une haie d'épines et de rosiers sauvages, s'étendait un petit jardin fort mal tenu. Le dedans de cette chaumière ne faisait point mentir son apparence extérieure. La pauvreté, la misère elle-même, ne sont point incompatibles avec la propreté la plus scrupuleuse et avec l'ordre, ce luxe du pauvre. Nous avons vu des mansardes dont tout le mobilier ne valait pas 50 francs et dont l'aspect pouvait satisfaire le coup d'œil le plus exigeant. Dans la chaumière qui nous occupe, il n'en était point ainsi. L'unique pièce du rez-de-chaussée qui formait l'habitation tout entière servait de domicile commun à un ménage composé de 3 personnes, puis à une douzaine de poules qui gloussaient en picorant, et enfin à un cochon de grande taille destiné à fournir les provisions d'hiver et qui, après avoir cherché pâture toute la journée à travers champs, revenait le soir se vautrer sur la litière infecte amoncelée dans l'un des coins de la chambre. Les meubles consistaient en 2 lits, ou plutôt 2 grabats, l'un très grand, l'autre fort petit, une table, un bahut et une armoire presque vide, le tout en bois de sapin. 4 chaises boiteuses et 2 escabelles branlantes étaient appuyées contre la muraille ou renversées sur le sol fangeux. Nous avons dit que les habitants de cette hutte étaient 3 personnes. Il y avait le père, la mère et un petit garçon. Le père, ancien soldat aux gardes françaises, assez mauvais sujet depuis sa jeunesse, avait contracté au service tous les vices des grandes villes. Il se nommait Roger Rigaud, et il avait épousé une jeune fille qui ne lui apportait en dot que de la beauté et peu de courage. Le mari et la femme possédaient à un degré égal l'horreur de tout travail. Cependant, comme l'oisiveté engendre la faim et qu'il fallait vivre, Roger Rigaud mit à profit la singulière adresse de tireur dont il était doué et se fit braconnier. Vainement, les gardes de Monsieur de la Tremblay exercèrent à son endroit la plus active surveillance. Ils les jouaient par-dessous jambes et tuaient à leur barbe force lièvre et force perdreau, que sa femme s'en allait vendre à Amiens, où il servait à la confection des savoureux pâtés dont la réputation était, dès cette époque, européenne. Au bout de 2 ans de ménage, Roger Rigaud se trouva père d'un gros garçon qui reçut le nom de Raoul au baptême. L'enfant grandit, et il était loin encore d'atteindre l'âge de raison, que déjà on aurait pu observer en lui un singulier mélange des qualités et des défauts les plus disparates. Seulement, les défauts dominaient de beaucoup. À 7 ans à peine, le petit Raoul, qui avait hérité de toute la beauté de sa mère, et qui avait reçu du ciel la plus précoce et la plus brillante intelligence, était tout à la fois orgueilleux et indisciplinable, mais rempli d'ardeur et d'activité, et doué de la bravoure la plus téméraire et la plus incompréhensible pour un enfant de cet âge. Ce n'est pas qu'il ignorât le péril et qu'il l'affronta en aveugle et sans le savoir. Le péril l'attirait invinciblement, comme la flamme d'une bougie appelle les imprudents papillons. Il aimait à risquer sa vie, et il le faisait avec tant d'audace, tant d'adresse et tant de bonheur qu'il sortait toujours sain et sauf de ses plus hasardeuses entreprises. À 8 ans, Raoul montait sans bride et sans selle les chevaux les plus fougueux mis au vert dans les prairies de la Tremblay. Ils saisissaient d'une main leur crinière et de l'autre leur frappant la croupe sans relâche, tandis que ses talons leur serraient les flancs, il se plaisait à les voir bondir sous lui et chercher vainement à se débarrasser de leurs légers et hardis cavaliers. Il montait, pour y dénicher des oisillons, sur les sommets des grands arbres et se suspendait à des branches si frêles qu'un témoin caché de ses ascensions insensées n'aurait pu s'empêcher de frémir. Il traversait à la nage les eaux les plus rapides et les plus profondes, et on l'avait vu, armé seulement d'un bâton, attaquer et mettre à mort un chien enragé, devant lequel fuyaient dans la campagne une demi-douzaine de paysans munis de fourches et de faux. Eh bien, tel que nous venons de le dépeindre, Raoul tremblait devant son père. L'ex-garde française était d'une extrême brutalité, et quand le produit de ses chasses furtives ne lui semblait point satisfaisant, ou bien encore quand il s'était enivré d'eau-de-vie, il soulageait ses injustes colères en maltraitant son fils et rouait de coups le pauvre enfant. Plus d'une fois, Raoul, instruit par l'expérience et prévoyant une de ces rages bestiales dont il était la victime, s'était enfui du logis paternel et avait passé 2 ou 3 jours et autant de nuits dans les bois. Pendant ce temps, comment vivait-il ? Se demandera-t-on. Ceci n'embarrassait guère l'ingénieux garçonnet. En quelques heures, il fabriquait des pièges où se prenaient les petits oiseaux. Il allumait du feu en frottant l'une contre l'autre 2 branches sèches et faisait rôtir ses prisonniers à la flamme d'un brasier improvisé. Des glands doux qu'il glanait dans les bois et qu'il mettait cuire sous la cendre lui tenaient lieu de pain et complétaient ses repas savoureux. Il couchait dans des grottes et sur des lits de mousse et de feuilles mortes qui remplaçaient, et certes avec avantage, la paille presque pourrie des grabats de Roger Rigaud. Quand il rentrait à la maison, il était battu, mais enfin il avait vécu pendant 2 jours en liberté et sans sentir continuellement suspendu au-dessus de sa joue l'épée de Damoclès de la taloche paternelle. Et maintenant que nous avons crayonné une rapide esquisse du caractère et des années d'enfance de Raoul, voyons un peu comment ce fils du braconnier de la Tremblée peut s'introduire dans notre récit pour y jouer le rôle capital. Un jour d'automne, jour sombre et voilé d'un crêpe de brouillard, le marquis Réginald s'était mis en chasse depuis le matin. Une bande de sangliers de haute taille ravageait le pays, et c'est d'un de ces farouches animaux qu'il s'agissait de venir à bout. Les chiens avaient lancé, et la chasse tout entière passait avec l'impétuosité de l'éclair à travers les clairières, les taillis et les fourrés. Monsieur de la Tremblée, selon son habitude presque invariable, se trouvait seul et pensif, séparé des autres chasseurs. Le marquis Réginald avait alors 70 ans accomplis. De longues mèches d'une blancheur argentée encadraient son visage flétri par le temps et par le chagrin, et dont son chapeau de feutre noir et ses autres vêtements uniformément noirs faisaient encore ressortir la pâleur mate et livide. Il était monté sur un cheval normand de haute taille et d'une vigueur extraordinaire. La main droite du marquis s'appuyait machinalement sur la crosse d'une courte carabine qui pendait à l'arçon de la selle. Le bois de cette carabine était en ébène et incrusté d'argent, couleur de deuil. Le cheval marchait au pas, et le cavalier, laissant flotter les rênes, s'absorbait dans de tristes pensées. La voix des chiens et l'harmonie des trompes se perdaient presque dans le lointain. Tout à coup, à 50 pas en avant de l'endroit où se trouvait le marquis, il se fit un froissement rapide et bruyant dans le fourré, et un sanglier gigantesque, qui n'était point l'animal de meute, se précipita comme un boulet de canon dans la direction de Monsieur de la Tremblée, dont le cheval frémit de tous ses membres. Les instincts du vieux chasseur se réveillèrent aussitôt. Il saisit sa carabine d'une main ferme, l'épaula, visa pendant le quart d'une seconde et fit feu. Mais la balle, au lieu de frapper le sanglier à la hure ou au cou et de l'étendre mort sur la place, lui laboura l'échine et ne fit que redoubler sa furie. L'impétuosité du monstre en parut doublée. Un bond prodigieux le porta jusqu'auprès du cheval effaré dont il déchira le poitrail d'un formidable coup de boutoir. Le cheval poussa un hennissement de douleur et d'épouvante. Il se dressa sur ses jarrets d'acier en battant l'air de ses pieds de devant. Il voleta sur lui-même, comme ces toupies que fouettent les enfants. Et malgré Monsieur de la Tremblée, qui voulait mettre pied à terre pour éventrer le sanglier d'un coup de son couteau de chasse, il se précipita tête baissée dans un sentier latéral qui s'enfonçait à travers le fourré. Le marquis Réginald, écuyer consommé s'il en fut, le laissa courir, sans lui fatiguer la bouche avec le mort, espérant au bout d'un instant venir à bout facilement d'une monture jusque-là docile. Le marquis se trompait. Le cheval, ensanglanté et furieux, redoublait ses bonds et ses ruades. On eût dit qu'il croyait sentir sur sa croupe la chaude haleine de la bête fauve. Sa course insensée ne se ralentissait pas. Au bout d'un quart d'heure qui lui avait suffi pour franchir un espace de plus de 2 lieues, il déboucha dans une vaste clairière. Cette clairière se terminait par une ravine escarpée et profonde, au fond de laquelle coulait un ruisseau rapide parmi les blocs de granit. Le cheval se dirigea de ce côté. Il ne lui fallait pas 3 minutes pour en atteindre les bords. Si le marquis ne parvenait point à le détourner de ce but fatal, la mort les attendait tous les deux. Une mort horrible, inévitable. Certes, Monsieur de la Tremblée ne craignait point de mourir, mais il lui aurait semblé commettre presque un suicide en ne faisant point tous ses efforts pour se rattacher à la vie. Il appuya violemment sur la bride en même temps qu'il attaquait le cheval avec la jambe gauche, croyant le contraindre ainsi à volter de nouveau. Tout fut inutile, la bride et l'éperon. Le cheval ne se détourna pas plus de la ligne droite que ne s'en écarte la balle d'une carabine. Seulement la bride se rompit en 2 endroits. Monsieur de la Tremblée se sentit perdu. Sauter à bas de sa monture, il n'y fallait point songer. Les selles de cette époque, dites selles à la française, très élevées et enfermant le cavalier entre 2 murailles de velours parfaitement rembourrées, rendaient impossible même une tentative. Monsieur de la Tremblée recommanda son âme à Dieu. Il tira de sa poitrine un petit médaillon qui renfermait dans son cercle d'or et de cristal des cheveux de 4 nuances différentes. Ses cheveux étaient ceux de sa femme et de ses 3 enfants. Il appuya le médaillon contre ses lèvres et il l'y pressa avec ardeur, en murmurant tout bas. « Je vais donc les rejoindre. » Enfin, il ferma les yeux et il attendit la mort. Au moment où le cheval et le cavalier faisaient irruption dans la clairière, une tête blonde et rose apparut derrière un bouquet de jeunes pousses, à quelques pas à peine de la ravine dont nous avons parlé. L'enfant auquel appartenait cette tête pouvait avoir 8 ans environ. Il était grand et fort pour son âge et d'une remarquable beauté, quoique couvert de vêtements en haillons. Ses traits exprimaient la résolution et l'intelligence. À côté de lui, sur le gazon, se voyaient quelques petits oiseaux attachés ensemble par les pattes à l'aide d'une ficelle. Cet enfant avait été arraché à un très profond et très calme sommeil par le retentissement des sabots du cheval qui frappaient impétueusement le sol. Il regarda, croyant d'abord que quelque hardi chasseur traversait la clairière à toute bride et pour son plaisir. Mais il ne lui fallut qu'un coup d'œil pour reconnaître le marquis de la Tremblée, pour s'assurer qu'il était emporté par sa monture et pour comprendre qu'il courait à une mort certaine. L'enfant n'hésita pas. Il quitta l'endroit dans lequel il se trouvait et il alla se placer entre le cheval et l'abîme. Si le marquis Réginald avait vu ce mouvement, il eût crié à l'enfant de se détourner. Et il eut tremblé de frayeur à la vue de cette héroïque audace. Mais le marquis Réginald avait les yeux fermés. Cependant, le cheval avançait toujours. Sa respiration était bruyante, ses flancs haletaient, une vapeur épaisse s'échappait de ses naseaux rouges et enflammés. En moins de 10 élans, il allait atteindre la crête de la ravine et s'y précipiter. Aussi rapide que la foudre, il passa à côté de l'enfant. Ce dernier, avec une agilité de chat sauvage, s'élança à sa tête et se cramponna des 2 mains aux branches du mort. Le cheval, étourdi par cette agression subite, se cabra et secoua la tête pour lancer au loin son nouveau fardeau. Mais l'enfant ne lâchait pas prise. Il y eut un instant de lutte entre les 2 adversaires. Cette lutte fut courte, car le cheval, épuisé déjà par la course qu'il venait de fournir, manqua à la fois des 2 pieds de devant et s'abattit en heurtant violemment de sa tête la frêle poitrine de son vainqueur. Monsieur de la Tremblée était sauvé, mais l'enfant gisait sur le sol, évanoui et tout sanglant. Cet enfant, nos lecteurs l'ont deviné sans doute, n'était autre que Raoul Rigaud, le fils du braconnier Roger. Au moment où le marquis Réginald comprit que tout péril était fini, et que ne devinant pas encore quel secours providentiel et inattendu lui était venu en aide, il dégageait sa jambe droite prise sous le flanc du cheval abattu, il aperçut le corps de Raoul sans connaissance, mais dont les mains crispées serraient toujours les branches du mort. Monsieur de la Tremblay se hâta de relever l'enfant, qu'il étendit sur le gazon en l'adossant au tronc d'un vieil arbre à moitié brisé. Il appuya sa main tremblante sur le cœur de Raoul pour s'assurer qu'il battait encore. Puis il descendit au fond de la ravine et en revint bien vite, rapportant son chapeau de feutre rempli de l'eau glacée du torrent. Avec cette eau, il lava la plaie peu profonde faite à la poitrine de l'enfant, qui, ravivé par la sensation de cette fraîcheur subite, ne tarda guère à revenir à lui et ouvrit ses yeux languissants. Il aperçut Réginald de la Tremblay penché sur lui et dont les cheveux blancs touchaient presque ses boucles blondes. L'enfant s'efforça de se soulever et ses lèvres, momentanément pâlies, murmurèrent avec une expression de respect.
« Monsieur le marquis, monsieur le marquis !»
Réginald posa sa main sur la bouche de Raoul et lui dit « Prenez garde, mon cher enfant, ne parlez pas encore. Laissez votre sang reprendre son cours naturel. Laissez le calme revenir en vous. » Raoul, malgré la douce violence que lui faisait le vieillard, se leva vivement, secoua sa tête rose et charmante et répondit
« Oh, je suis calme, monsieur le marquis. Je ne souffre pas et jamais je ne me suis senti plus fort et plus dispos. Voyez !»
En parlant ainsi, il cambra sa taille naturellement élégante et fine et il élargit sa poitrine que tachaient encore quelques gouttes d'un rouge vif.
« Regardez !» dit Réginald. « Regardez, votre sang coule !»«
Bah !» répondit l'enfant.
« Une égratignure !
Si j'allais à la guerre, monsieur le marquis, et si je recevais de bonnes arquebusades ou de beaux coups d'épée au travers du corps, comme doit le faire un vaillant soldat, il me semble que j'en verrais bien d'autres. D'ailleurs, le sang est liquide, donc il est fait pour couler. »
Le marquis ne put s'empêcher de sourire à cette vivacité et à cette bravoure enfantine. Il attacha de nouveau un long et pénétrant regard sur celui qui lui parlait ainsi. Il fut frappé, plus qu'il ne l'avait été jusque-là, de l'aspect véritablement aristocratique du petit paysan, dont les vêtements grossiers et en lambeaux ne pouvaient dissimuler la tournure noble et aisée. Il admira le feu des regards de Raoul, la coupe gracieuse de son visage, la fierté de son allure, la parfaite distinction de toute sa personne. Puis il murmura en lui-même « À coup sûr, ce n'est point là un enfant ordinaire. » Raoul avait soutenu le long examen du marquis avec une aisance facile, mais qui n'avait rien de trop assuré, ni d'impudent. Monsieur de la Tremblay posa sur la tête de l'enfant sa main pâle et amaigrie. « Savez-vous, lui dit-il, que Dieu vous a placé sur mon chemin pour me sauver la vie ?»«
Dieu fait bien tout ce qu'il fait, » répondit Raoul.
« Comment cette idée a-t-elle pu vous venir, mon enfant, d'arrêter, vous si frêle, un cheval fougueux et emporté, ce qui était une entreprise insensée ?»«
Monsieur le marquis, dit le jeune paysan, j'ai vu que vous n'étiez plus le maître de votre cheval, que la bride était rompue et que vous étiez perdu si l'on ne venait à votre aide. Je n'ai point réfléchi et j'ai essayé cette entreprise que vous appelez insensée et qui ne l'était pas, puisque j'ai réussi. »
Monsieur de la Tremblay resta stupéfait d'abord en face de ce sang-froid inouï et de cette modestie qui n'était point feinte.
« Vous êtes brave !» s'écria-t-il enfin. « Brave comme un des soldats de Denain !»«
Je ne sais pas, » répliqua Raoul.
« Comment ? Que voulez-vous dire ?»«
Je veux dire que je ne sais pas si je suis brave. Je n'ai peur de rien, voilà tout. »
Cette distinction était subtile. Le marquis, en l'entendant, ne put s'empêcher de sourire une seconde fois.
« Mon enfant, demanda-t-il, êtes-vous de ce pays ?»«
Vous ne m'avez donc jamais vu, monsieur le marquis ?» dit Raoul d'un air étonné.
« Non, je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais remarqué, du moins. »«
Eh bien, je suis de la Tremblay. »«
Comment vous nommez-vous ?»«
Raoul. »«
Comment s'appelle votre père ?»«
Roger Rigaud. »
Le marquis fronça le sourcil. « Un ancien soldat aux gardes françaises, je crois. »«
Oui, monsieur le marquis. » »«
Pauvre, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur le marquis. »«
Très pauvre. » »«
Et, ajouta Réginald, vivant de braconnage, à ce que m'ont affirmé mes gardes. »
« Vos gardes en ont menti, monsieur le marquis !» s'écria fièrement Raoul.
« Au fait, pensa monsieur de la Tremblay, de quoi vais-je parler à cet enfant? Un fils ne peut pas, ne doit pas accuser son père !»
Il y eut un instant de silence, puis Réginald reprit à haute voix.
« Êtes-vous plusieurs enfants ?»«
Non, monsieur le marquis, je suis tout seul. »«
Votre père vous aime-t-il ? » ?»«
Je ne crois pas. » »«
Il vous maltraite ?»
« Souvent. »«
À quoi vous emploie-t-il ? » ?»«
À rien. » »«
Au moins, vous fait-il donner quelque instruction ?»«
Il m'a appris à lire, c'était tout ce qu'il savait. »«
Et c'est tout ce que je sais. » »«
Aimeriez-vous en apprendre davantage ?»«
Oh oui,
mais c'est impossible. » »«
Avez-vous quelquefois pensé à l'avenir ?»«
Qu'est-ce que l'avenir, monsieur le marquis ?»
C'est le temps lointain encore, où, ayant cessé d'être un enfant, vous serez devenu un homme.
Oui, j'y ai pensé souvent.
Et que comptez-vous faire quand ce temps sera venu?
Aussitôt que j'aurai l'âge, je me ferai soldat pour aller à la guerre et revenir riche et capitaine.
Vous souhaitez donc avoir de l'argent?
Beaucoup.
Pourquoi cela?
Parce que mon père répète sans cesse que quand on est riche, il ne reste rien à désirer. Et qu'on a tous les plaisirs et tous les bonheurs du monde. »
Le marquis poussa un soupir et jeta vers le ciel un regard douloureux. Puis il porta tristement à ses lèvres le médaillon renfermant les cheveux de ceux qu'il avait aimés et qu'il pleurait encore. Raoul s'aperçut de cette tristesse et n'ajouta pas un mot. Monsieur de la Tremblay reprit.
« Mon enfant, je veux vous ramener moi-même à votre père et lui dire que je vous dois la vie. »
« Comme vous voudrez, monsieur le marquis. Seulement, je vous en prie, faites en sorte qu'il ne me batte pas, car voici 2 jours que je me suis enfuie de chez lui.
Soyez tranquille, il ne vous touchera point.
Mais dites-moi, mon enfant, pourquoi donc aviez-vous quitté sa maison ?
Pour éviter d'être battu.
Qu'aviez-vous donc fait ?
Rien.
Cependant, la colère de votre père contre vous avait une cause, j'imagine.
« Aucune, il n'avait pas d'argent, ce qui n'est pas ma faute. Et quand il n'a pas d'argent, il me frappe. Ça le console, à ce qu'il paraît. »«
Pauvre enfant, » murmura le marquis.
« Ainsi, » demanda Raoul à demi rassuré, « ainsi, je n'ai rien à craindre aujourd'hui ?»«
Rien, » répondit Réginald, « ni aujourd'hui, ni jamais. »«
Alors, » s'écria joyeusement l'enfant, « alors, monsieur le marquis, « je ne demande pas mieux que de vous suivre. »
Et Raoul marcha dans la même direction que le marquis, qui s'apprêtait à rejoindre son cheval. Mais à peine avait-il fait quelques pas que ses joues rosées devinrent pâles tout d'un coup. Le sang coula avec abondance de la blessure qu'il avait à la poitrine, ses jambes se dérobèrent sous lui, et il tomba sur le gazon. Réginald, très effrayé de cette crise imprévue, prodigua de nouveau tous ses soins à l'enfant, qui se ranima presque aussitôt et se remit debout en disant «
Maintenant, c'est fini. »
Il est impossible, s'écria le marquis, il est impossible que vous alliez à pied jusqu'à la Tremblay.
Ah, répondit Raoul, je vous demande bien pardon. J'irai le mieux du monde.
Je n'y consentirai jamais.
Comme il vous plaira, monsieur le marquis, je vais rester ici.
Non pas.
Mais cependant, puisque vous dites que vous ne voulez pas que je marche,
c'est bien simple, je vous soutiendrai à côté de moi, sur mon cheval.
N'aurez-vous point peur de voyager ainsi ?
Peur ? Répéta Raoul avec un petit rire ironique.
D'ailleurs, je suis monté à cheval.
En vérité ? Fit monsieur de la Tremblay d'un ton un peu incrédule. Ce ton piqua au vif l'amour-propre excessif de l'enfant dont les forces étaient momentanément revenues. Il courut au cheval, qui, rendu docile par la dure leçon qu'il avait reçue, mâchait tranquillement quelques brins d'herbe que son mors ne lui permettait point d'avaler. Il s'élança sur la selle sans se servir des étriers. Puis, rassemblant dans ses 2 mains les lambeaux pendants de la bride et frappant du talon les flancs du robuste animal,
il le lança au galop, lui fit franchir le tronc d'un arbre renversé et le ramena doux et soumis comme un jeune agneau jusqu'auprès du marquis. Ce dernier l'avait regardé faire avec une stupeur toujours croissante, et il murmurait en lui-même. « Je ne me trompais pas, cet enfant est merveilleux. Plût à Dieu qu'il fût mon fils. » Raoul mit pied à terre.
« Vous voyez, monsieur le marquis, que j'avais dit la vérité »
balbutia-t-il d'une voix à peine distincte, car une nouvelle défaillance s'emparait de lui. Le sang recommençait à couler, et sa pâleur redevenait livide. Monsieur de la Tremblay banda avec son mouchoir la poitrine déchirée de l'enfant. Il rajusta de son mieux les rênes brisées, il assit Raoul sur le garrot de son cheval et se mit en selle derrière lui, et il reprit au pas le chemin du village, où selon toute apparence il n'aurait pu jamais revenir. Tout en marchant, il continua avec Raoul la conversation dont nous avons reproduit le début, et à chaque réponse, il admirait de plus en plus l'esprit juste et la lumineuse intelligence de l'enfant. Chapitre 2. Roger Rigaud. Au bout d'une heure et demie à peu près, le marquis arrêtait sa monture devant la chaumière de Roger Rigaud. Monsieur de la Tremblay appela le braconnier. La femme seule se présenta, Roger était absent. Le marquis lui remit Raoul et lui raconta en peu de mots ce qui s'était passé et l'engagea à envoyer son mari au château aussitôt qu'il serait de retour. La paysanne le promit. Monsieur de la Tremblay, rentré chez lui, se laissa tomber dans un large fauteuil auprès de l'une des fenêtres du salon et s'enfonça dans de longues et profondes réflexions. Il se dit que c'était la Providence elle-même qui venait de jeter sur son chemin cet enfant inconnu. Et il se demanda si cette même Providence ne lui désignait pas clairement cet enfant comme devant remplacer les fils qu'il avait perdus. C'est assez dire que la pensée d'adopter Raoul et d'en faire l'héritier de son nom et de sa fortune se présentait à son esprit. Le marquis n'avait d'autres parents que des collatéraux assez éloignés, tous riches par eux-mêmes, tous portant un autre nom que le sien, et pour lesquels il ne professait que de l'indifférence. Parmi les nombreuses douleurs de sa vie, un des chagrins les plus vifs avait toujours été de penser que son vieux manoir et ses immenses domaines irait, après sa mort, grossir les biens déjà nombreux de ses collatéraux. D'un autre côté, il sentait naître en son cœur une vive affection, une irrésistible sympathie pour cet enfant incompréhensible, pour ce petit paysan si gracieux et si brave, dont le sang avait coulé pour lui. Peut-être cette affection allait-elle le rattacher à la vie et remplir d'un peu de consolation et de joie les jours de sa vieillesse ? Et puis, en dehors de toutes ces considérations, n'y en avait-il pas une autre, et qui devait peser d'un grand poids dans la balance? Ne serait-ce point une œuvre pieuse et charitable, une œuvre dictée par les sentiments les plus simples et les plus doux de la reconnaissance, d'arracher ce jeune Raoul à la dure autorité d'un mauvais père, et de fournir à ce jeune aiglon les moyens d'étendre ses ailes? Voilà ce que monsieur de la Tremblay venait de se dire et de se répéter, quand un valet de chambre entra dans le salon où il se trouvait et le prévint que le paysan Roger Rigaud, venu au château d'après ses ordres, sollicitait la faveur d'être introduit auprès de lui. « Amenez-le ici à l'instant même, » répondit le vieillard. Roger Rigaud, en apprenant par sa femme les événements de la matinée, avait flairé quelque bonne aubaine. Il avait caressé Raoul au lieu de le battre comme de coutume. Il avait revêtu tout aussitôt son costume le moins délabré, et sans perdre une minute, il était accouru au château. Le valet de chambre l'introduisit. Le père de Raoul touchait à sa 40e année. Il était grand et fort et pouvait passer pour un bel homme, dans la plus vulgaire acceptation du mot, c'est-à-dire qu'il avait de très larges épaules, un buste bien proportionné, des jambes nerveuses et des bras musclés, comme ceux de ces alcides nomades qui soulèvent dans les foires et les places publiques des poids de 400 livres. Ses allures habituelles affectaient la raideur militaire. Son port de tête était martial, et il continuait à porter de longues moustaches noires et retroussées en crocs, comme s'il eût été encore au service. Son visage énergique,
bronzé en quelque sorte par le soleil et par toutes les intempéries des saisons, exprimait des passions brutales et fougueuses. Son regard n'était pas franc, et le sourire de ses lèvres minces semblait toujours dissimuler un mensonge. Ce jour-là, il avait passé une chemise blanche, noué une cravate autour de son cou de taureau, revêtu une jaquette de droguet commun, reprisée grossièrement en maint endroit. Les longues guêtres de cuir qui serraient étroitement ses jambes sentaient le braconnier d'une lieue. Enfin, il tenait à la main une coiffure indéfinissable, moitié casquette et moitié chapeau. La couleur et la forme ne s'en distinguaient plus guère. Au moment où Roger Rigaud entra dans le salon, en s'inclinant jusqu'à terre et à plusieurs reprises, le marquis Réginald l'accueillit d'un geste gracieux et lui fit signe d'avancer. Le braconnier obéit. Il fit quelques pas et se tint debout en face de Monsieur de la Tremblay, dans la raide immobilité et dans l'attitude du soldat au port d'armes. Mon ami, lui dit le marquis, il est évident, puisque vous voilà, que vous avez déjà vu votre femme.
Oui, monsieur le marquis, répondit Roger,
j'ai eu cet avantage.
Elle vous a dit, sans nul doute, poursuivit monsieur de la Tremblay, que votre fils m'avait sauvé la vie.
J'ai appris, en effet, que le petit drôle avait eu le rare bonheur de se rendre utile à monsieur le marquis, et j'en ai béni le hasard.
Dites la providence, mon ami.
Oui, monsieur le marquis, la providence.
Savez-vous que vous avez là un précieux enfant?
Le petit a du bon, je ne dis pas le contraire.
L'aimez-vous comme il mérite d'être aimé?
Dame, monsieur le marquis, chacun aime à sa manière. Nous autres, pauvres diables, nous ne pouvons pas aimer nos enfants comme les gens riches et les grands seigneurs aiment les leurs. Je rudoie quelquefois le petit, quand il le mérite, bien entendu. Et il le mérite souvent. Mais vous savez le proverbe, monsieur le marquis. Qui aime bien, châtie bien.
Ah, reprit monsieur de la Tremblay avec un demi-sourire. Je crois même que dans ce sens, vous l'aimez un peu trop.
Est-ce que le petit se serait plaint de moi? Demanda sournoisement Roger.
Au contraire, répondit le marquis, il vous a défendu.
C'était son devoir à cet enfant, murmura le braconnier.
Il sait bien que je le chéris.
Voyons, dit monsieur de la Tremblay, consentiriez-vous à vous séparer de lui?
M'en séparer? Pourquoi?
Peu importe, répondez à ma question.
Eh bien, monsieur le marquis, on verrait, répondit Roger. Si c'était pour son bonheur, et il ajouta tout bas, et pour le mien.
Enfin, si quelqu'un, un gentilhomme, un homme riche, vous proposait de prendre chez lui votre fils Raoul, et de le traiter comme son propre enfant, que décideriez-vous?
Ce que je déciderais?
Oui.
Dame, si on m'en offrait cela, mais on ne me l'offre pas.
C'est ce qui vous trompe.
On me l'offre?
Très positivement.
Et qui donc?
Moi.
Vous, monsieur le marquis?
S'écria Roger avec toute l'apparence d'une profonde surprise. Nous disons l'apparence, car le rusé paysan avait deviné depuis un instant où monsieur de la Tremblay allait en arriver. Et il ne songeait, lui, qu'à tirer le meilleur parti possible du marché qu'il s'apprêtait à conclure avec le vieillard.
Vous, monsieur le marquis? Répéta-t-il pour la seconde fois.
Moi-même, répondit monsieur de la Tremblay.
Oh, alors, c'est bien différent. Mais vous comprenez que je ne peux pas comme cela répondre de suite.
Pourquoi donc?
Dame, monsieur le marquis, la chose est grave.
Sans doute. Mais je désire que votre décision soit immédiate.
Songez donc, vous me parlez d'une séparation, et un cœur de père saigne toujours à cette pensée.
Une semblable parodie de l'amour et du langage paternel révolta monsieur de la Tremblay. Cependant, il ne témoigna son dégoût qu'en interrompant Roger.
Si en effet vous aimez votre fils autant que vous le dites, vous ne devez pas hésiter à lui prouver votre tendresse en assurant son bonheur à venir.
Monsieur le marquis, répondit philosophiquement Roger, la fortune ne fait pas le bonheur.
Elle y contribue du moins.
Et puis, voyez-vous,
Le petit me sert à bien des choses. Je ne pourrais guère me passer de lui. Il m'aide, ce garçon.
À quoi ? Demanda le marquis.
Dame, je ne peux pas trop vous dire, mais pour sûr, un enfant de cet âge, c'est toujours utile dans un ménage de pauvres gens.
Aussi, répondit Réginald, je ne prétends pas vous le prendre sans vous indemniser largement de la perte que pourra vous occasionner son absence.
Voilà les paroles que Roger Rigaud attendait avec impatience depuis le commencement de l'entretien. Le marquis venait de faire vibrer la seule corde sensible dans le cœur du paysan, celle de l'intérêt.
« Vous disiez donc, monsieur le marquis, demanda le braconnier, que vous prendriez le petit chez vous ?»«
Oui. »«
Tout de suite. Aujourd'hui même. »«
Et pour toujours ?»«
Oui, pour toujours. »«
Eh bien, monsieur le marquis, il y a peut-être moyen de nous entendre. »«
Comment ?»«
Raoul est mon fils, mon bien, ma propriété. Il est à moi comme la France est au roi. J'ai le droit de le garder ou de le céder, d'en disposer enfin, comme bon me semblera. »
Personne ne conteste cela.
Or, poursuivit Roger, reprenant le fil de son raisonnement, si je consens à me défaire du petit, c'est uniquement dans l'intérêt de son bonheur, ainsi que vous le disiez tout à l'heure, monsieur le marquis.
Après ?
Certainement, je veux que mon fils soit heureux. C'est même le plus cher de mes désirs. Mais il ne me semble pas juste que le petit ait toutes ses aises, tandis que je n'en aurai aucune. Il ne me semble pas juste qu'il dorme dans des lits de plumes quand je coucherai sur la paille, et qu'il ait 10 plats à chaque repas, tandis que je mourrai de faim.
Cela, répondit M. de la Tremblay, ne serait ni juste ni naturel, en effet.
Comment donc faire ?
Je vais vous le dire.
Roger devint tout oreille. Je vous donnerai, poursuivit M. de la Tremblay,
je vous donnerai l'équivalent de ces jouissances que vous désirez si vivement. Je vous donnerai une somme annuelle qui vous assurera un bon lit, une table bien servie, un tranquille avenir. »
Le braconnier tressaillit de joie jusque dans la moelle de ses os. Des frissons de plaisir couraient sur son épiderme et chatouillaient la racine de ses cheveux.
« Quelle sera cette somme, monsieur le marquis ? » murmura-t-il d'un ton patelin.
« Fixez-la vous-même. »
Roger médita pendant un instant, puis il reprit.
« Si je ne me trompe, monsieur le marquis, vous avez parlé d'une rente annuelle. »
« Vous ne vous trompez pas. »
« Dame, il me semble que 1200 livres... »«
Vous les aurez, » répondit vivement monsieur de la Tremblay.
« J'ai demandé trop peu, » pensa le paysan.
« Mais je me rattraperai sur autre chose. » Et il continua.
« Cette somme, assurée par contrat, sera payable ma vie durant ?»«
Bien entendu. »«
Et après ma mort, reversible sur la tête de ma femme ?»«
Oui. »«
Puisque monsieur le marquis est si bon, il voudra bien ajouter à ses libéralités une somme de 300 livres pour faire reconstruire ma pauvre maison ?»«
Accordé. »«
Monsieur le marquis consentira-t-il à me faire donner tous les 2 ans 2 barils d'eau-de-vie par son sommelier ?»
Soit.
Et enfin, quoi ? Il y a encore quelque chose ?
Oh, monsieur le marquis, presque rien. La simple permission de chasser pour mon plaisir, seulement avec mon fusil, et sans chien d'arrêt, ni chien courant, sur les terres et dans les forêts de monsieur le marquis.
Monsieur de la Tremblay hésita. Comme tous les gentilshommes de cette époque, il était fort jaloux de ses privilèges de chasse. Mais il réfléchit bien vite qu'il voulait obtenir Raoul à tout prix, et que d'ailleurs Roger, dangereux braconnier s'il en fut, détruisait sournoisement autant de gibier qu'il pourrait le faire d'une façon ostensible et avouée. Il céda.
« Vous aurez l'autorisation que vous demandez, » dit-il.
« Je ne sais, en vérité, » s'écria le paysan, « comment remercier monsieur le marquis ?»«
Et maintenant, » reprit ce dernier, « c'est bien convenu, n'est-ce pas ? Votre fils est à moi. »
« Entièrement, monsieur le marquis. Il cesse de m'appartenir et il devient votre absolue propriété. Je renonce à tous mes droits sur lui et je vous les cède. Sacrifice bien douloureux, monsieur le marquis, mais que je fais dans l'unique intérêt de ce cher petit. »
Monsieur de la Tremblay interrompit de nouveau cette honteuse comédie.
« Demain, dit-il à Roger, demain,
seront signés les titres de votre rente viagère. Maintenant, allez chercher votre fils et amenez-le-moi. » Le braconnier sortit aussitôt et revint au bout de quelques minutes avec l'enfant. C'est ainsi que Raoul Rigaud fit son entrée au château de la Tremblay. Chapitre 3. Réginald et Raoul. Les prévisions et les espérances de Monsieur de la Tremblay ne tardèrent point à se réaliser. La présence de Raoul ramena au château et dans le cœur du vieillard, sinon la joie, du moins la vie. Un sourire fugitif revint entr'ouvrir les lèvres de Réginald, si longtemps plissées par des pensées amères. Les jeux bruyants, les vives clameurs de l'enfant remplacèrent dans les longs corridors et dans les vastes salles le morne silence de la tombe. Monsieur de la Tremblay se reprit à aimer. Raoul, à peine introduit dans un milieu de fortune et de grandeur, sembla s'y acclimater d'une façon si complète et si prompte qu'on eût dit qu'il était venu au monde parmi ses habitudes aristocratiques et que le sang patricien d'une race de gentilshommes se révélait en lui. Nul doute que si l'enfant n'avait eu sans cesse sous les yeux la chaumière dans laquelle il était né, il ne fût arrivé bien vite à se persuader à lui-même qu'il n'y avait rien de plébéien dans son origine et qu'il aurait rêvé les émaux chevaleresques d'un blason imaginaire. Nous savons déjà quels étaient les projets de Réginald à l'égard de Raoul. Il comptait, après quelques années d'épreuves, l'adopter avec toutes les formes légales, obtenir par ordonnance royale le droit de le substituer au nom et aux armes de la Tremblay et lui laisser, comme à son fils unique, son immense fortune. Mais ses projets, aux yeux de Réginald, ne deviendraient réalisables qu'autant que Raoul se montrerait digne de toutes les faveurs que lui réservait l'avenir. Or, il fallait avant toute chose former le cœur et développer l'intelligence du jeune homme. Un gouverneur d'un incontestable mérite fut chargé de présider à l'éducation de Raoul. Sous la direction habile de ce maître, le fils du braconnier fit des progrès rapides et dépassa les espérances de Réginald. Raoul, ardent, impétueux, déterminé, tourna vers le travail son impétuosité, sa détermination. Il ne marcha point d'un pas chancelant et incertain dans ces sentiers difficiles et hérissés de ronces dont la science entoure ses abords. Il alla droit au but, ne reculant jamais et franchissant les obstacles au lieu de les tourner. Raoul atteignait à peine sa 16e année que déjà son précepteur n'avait plus rien à lui apprendre. Réginald, alors, put goûter tous les bonheurs de cette paternité factice qu'il s'était créée. Raoul, libre des entraves du travail, devint pour lui un compagnon assidu et inséparable. Le jeune homme accompagna dans toutes ses chasses le marquis, qui semblait rajeuni de 10 ans. Le soir, ils jouaient ensemble aux échecs, car Raoul était devenu d'une très jolie force à ce jeu difficile. Puis, Monsieur de la Tremblay, pensant qu'un jeune homme a besoin d'une autre société que celle d'un vieillard, rouvrit les portes de son château à la noblesse du voisinage. Ce furent chaque jour de nombreuses réunions, des fêtes, des carousels. Raoul triomphait de tous ses concurrents par ses manières exquises, par sa galante tournure, par son adresse hors ligne, de même qu'il les écrasait par le luxe de ses vêtements, de ses bijoux et de ses chevaux. Car le marquis Réginald ne mettait pas de borne à sa générosité vis-à-vis de Raoul, et il prodiguait tant d'or au jeune homme que celui-ci, ne sachant à quoi l'employer, en entassait une partie dans une cassette d'acier qu'il avait dans sa chambre et qui se remplissait chaque jour davantage. Maintenant, si l'on nous demande quelle place tenait dans les affections de Raoul ceux auxquels il devait véritablement la vie, nous répondrons qu'il n'en tenait aucune. Raoul n'aimait point son père, et ce sentiment de répulsion peut, sinon s'excuser, du moins se comprendre. Mais sa mère de qui il n'avait jamais eu à se plaindre, était pour lui comme si elle n'avait point existé. Bien plus, il en voulait à cette pauvre femme de l'avoir fait naître dans une condition aussi obscure. Il faisait un détour afin de ne point passer devant la maison qu'elle habitait, et sans cependant désirer sa mort, il n'y aurait pas eu de larmes dans ses yeux le jour où on serait venu lui dire qu'elle avait cessé de vivre. Certes, c'était là des indices d'un cœur profondément sec et d'une âme outre mesure orgueilleuse. Raoul eût donné de grand cœur tout le bonheur matériel dont il jouissait amplement pour avoir le droit de se dire le fils de quelque grand seigneur bien pauvre. « Si le marquis de la Tremblay était mon père, pensait-il, on me nommerait monsieur le comte au lieu de m'appeler monsieur Raoul, comme on le fait sans cesse. » Et c'était d'incessantes blessures pour l'amour-propre excessif et ombrageux du jeune homme. Mais ces blessures, dont nous venons de parler, Raoul les cachait soigneusement, et le marquis Réginald ne se doutait de rien. 2 années se passèrent ainsi. Le fils du braconnier était devenu, sans contredit, le cavalier le plus beau et le plus élégant de tout le pays. Quand il passait au galop de chasse sur son joli cheval gris de fer à crinière longue et flottante, les jeunes filles le suivaient longtemps du regard, et leur cœur l'accompagnait quand leurs yeux ne le voyaient plus. On dit même, et nous ne sommes point éloignés d'ajouter à ce bruit une entière créance, que 2 châtelaines de haute lignée devenaient en sa présence rougissantes et timides, et soupiraient en pensant à lui. Le mari de l'une de ces dames portait dans ses armes un cerf. 2 licornes servaient de support au fier écusson du second. Fatal augure, triste présage, ses blasons n'étaient point menteurs. Le jour où Raoul atteignit sa 18e année, le valet de chambre du marquis entra dans son appartement peu avant 10 heures du matin et le prévint que monsieur de la Tremblay le faisait prier de vouloir bien passer chez lui. Raoul acheva rapidement sa toilette et courut chez son père adoptif. Aussitôt que le jeune homme eut franchi le seuil de la pièce dans laquelle l'attendait le vieillard, Réginald se leva de son fauteuil, vint au-devant de lui, l'étreignit de ses 2 bras, l'embrassa sur le front avec une profonde tendresse et lui dit « Que Dieu te bénisse et qu'il permette ainsi que je le lui demande à 2 genoux, que l'année qui va commencer pour toi surpasse en félicité celle qui vient de finir. » Raoul partagea à demi la vive émotion avec laquelle ces paroles venaient d'être prononcées. À son tour, il embrassa Réginald et il murmura « Merci, mon bon père, merci de cette tendresse que vous m'accordez et que Dieu prolonge ma vie afin de me permettre de vous la consacrer. » « Mon enfant, » dit monsieur de la Tremblay en prenant Raoul par la main et en lui montrant un siège placé à côté du sien. « Mon enfant, assieds-toi, nous avons à causer. » Raoul obéit et il attendit en silence que Réginald entama l'entretien. Le visage du marquis respirait comme toujours l'affection la plus bienveillante, mais l'expression d'une gravité solennelle s'y montrait aussi par instants. À coup sûr, la conversation allait être sérieuse et rouler sur un sujet d'une haute importance. Monsieur de la Tremblay la commença ainsi. « Mon cher enfant, fit-il, tu as aujourd'hui 18 ans, et il y en a 10 que nous vivons ensemble et que je te regarde comme un fils. Depuis le jour où tu as franchi pour la première fois le seuil de ma maison, je n'ai rien négligé de ce qui m'a paru devoir assurer ton bonheur. J'ai cherché à développer ton corps en même temps qu'à former ton esprit. J'ai réussi à l'un comme à l'autre, et ni les maladies du corps, ni les vices, qui sont les maladies de l'âme, ne se sont approchés de toi. Tu n'as pas de reproche à m'adresser, n'est-ce pas, Raoul ? Oh, mon père, mon père ! S'écria le jeune homme. « Des reproches ? Que me dites-vous ? Des reproches, moi ? Quand au contraire, je ne trouve pas d'expression pour vous exprimer dignement ma profonde et éternelle reconnaissance. » D'un geste amical, le marquis imposa silence à Raoul. Puis il reprit. « Quant à toi, mon enfant, je suis heureux, oh, bien heureux de te rendre ce témoignage. Tu as comblé tous mes vœux, tu as dépassé toutes mes espérances. Tu es ma joie et mon orgueil. Je suis fier de toi, et il n'y a pas un seul gentilhomme dans ce beau royaume de France qui ne partageât cet orgueil s'il avait un fils semblable à toi. » Raoul, feignant alors une modestie qu'il n'éprouvait guère, fit mine d'interrompre le marquis. Mais ce dernier continua. « Je t'ai jugé, mon enfant. Tu es bon, ton cœur est noble et ton âme est élevée. Peut-être ai-je contribué à développer en toi les qualités brillantes et les vertus solides dont tu peux t'honorer à bon droit. Cette pensée sera la joie de mes dernières années. Or, le jour est venu, mon enfant, où tu vas recevoir la récompense qui t'est due. Cette récompense sera à la hauteur de ton mérite. Jusqu'à présent, tu n'étais mon fils que selon mon cœur. Tu vas devenir mon fils, selon la loi. » Réginald s'interrompit. Raoul n'avait jamais soupçonné toute la portée des intentions du marquis à son égard. Aussi murmura-t-il. « Mon père, que voulez-vous dire ?»«
Je veux dire, » répondit le vieillard, « qu'un acte d'adoption bien en règle va nous attacher l'un à l'autre indissolublement. Que j'obtiendrai pour toi de la faveur souveraine l'autorisation de porter mes armes et de prendre mon nom et mon titre, et que je te présenterai à mes vassaux et à mes tenanciers comme mon enfant unique et mon unique héritier. »
Réginald se tut. Raoul croyait rêver. Il était ébloui et comme anéanti par les perspectives rayonnantes que venaient d'ouvrir devant lui les derniers mots de Monsieur de la Tremblée. Quoi ? Lui, l'obscur enfant du braconnier Roger, il allait se trouver placé tout d'un coup au plus haut des degrés de l'échelle sociale ? Il allait se trouver soudainement riche, honoré, envié, et qui plus est, gentilhomme et grand seigneur. Aujourd'hui, comte de la Tremblée, un peu plus tard, marquis. Il épouserait quelques jeunes filles de bonne maison, il irait à la cour, il deviendrait le favori du roi, qui lui donnerait à commander l'un de ses régiments, et le ferait chevalier de ses ordres. Où s'arrêterait l'essor de sa haute fortune? Ces mirages scintillants et bien d'autres encore se succédèrent devant les regards de Raoul dans l'espace de moins d'une minute. Puis, bien certain que tout cela était réel, le jeune homme se jeta aux genoux de Réginald, les couvrit de baisers et de larmes de joie, et bégaya les protestations sincères et ardentes de sa reconnaissance infinie. Le marquis coupa court presque aussitôt aux effusions de cette reconnaissance. « En voilà assez, cher enfant, » dit-il. « Tu connais maintenant mon irrévocable résolution. » Avant un mois, elle aura reçu son plein et entier accomplissement. Maintenant, le déjeuner doit être prêt. Allons nous mettre à table. Ensuite, nous monterons à cheval. Je me sens disposé à courir un chevreuil aujourd'hui et je ne sais quoi me dit que nous ferons bonne chasse. » Raoul suivit le marquis. Une heure après, tous deux s'enfonçaient au galop de leurs chevaux sous les ombrages touffus des bois. En passant sous la voûte des grands chênes, Raoul se courbait involontairement. Le futur héritier du nom de la Tremblée craignait de heurter aux branches gigantesques son front couronné d'orgueil.